Bonjour à tous. Parole de Jésus, à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites des disciples, enseignez-les. Jésus, le Fils de Dieu, fait homme il y a 2000 ans, crucifié pour la rémission de nos péchés et vainqueur de la mort, donne cet ordre missionnaire à ses 11 disciples. Comme il le dit lui-même, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Néanmoins, avant de retourner au ciel à la droite de Dieu, il exhorte ses disciples. Allez, faites des disciples et enseignez ce que je vous ai appris lorsque j'étais parmi vous. Aujourd'hui, nous disposons facilement de l'ensemble des textes bibliques et en particulier des 4 évangiles qui rendent compte de cet enseignement de Jésus. Par exemple, nous lirons quelques versets du Sermon sur la montagne en Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et également Matthieu 6, les versets 25 à 34. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Allez, faites des disciples et enseignez l'amour du prochain, la confiance en Dieu et l'engagement pour le royaume et la justice de Dieu. Jésus n'a pas dit « Restez chez vous, priez en mon nom et je m'occuperai de tout ». Il a mis ses disciples au défi de diffuser la bonne nouvelle de la réconciliation des humains pécheurs et rebelles avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Que les disciples qui ont expérimenté l'amour de Jésus pour tous les humains se mettent au travail pour répandre sur toute la terre la bonne nouvelle de l'Évangile. Cela a été une grande aventure qui a débuté au 1er siècle et qui se prolonge encore aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce travail missionnaire, de ces personnes qui s'engagent pour aller faire des disciples et enseigner la bonne nouvelle de l'Évangile par leurs paroles et ou par leurs actes. Au chapitre 13 du livre des Actes, nous pouvons lire le début du premier voyage missionnaire de Paul, qui était un citoyen romain, qu'on appelle également Saul de Tarse, dans le contexte hébreu. Ce chapitre 13 des Actes des Apôtres marque un tournant dans le livre des Actes. Les 12 premiers chapitres rapporte les événements liés à la personne de Pierre, tandis que les chapitres restants se focalisent sur Paul. Avec Pierre, le regard porte essentiellement sur l'église juive de Jérusalem et de Judée. Avec Paul, l'accent est mis sur l'expansion de l'église des non-juifs dans l'ensemble du monde romain, en commençant par l'église d'Antioche. Nous lisons Actes chapitre 13, des versets 1 à 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Un peu plus loin, nous lirons les versets aussi 44 à 51 du même chapitre. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Voilà la description de ce premier voyage missionnaire de Paul et de ses compagnons. Premier enseignement. On ne part pas seul dans un projet missionnaire. C'est l'Église, d'Antioche dans ce cas, qui envoie Paul et Barnabas. L'Église est la base du soutien du projet missionnaire. Tous ne partent pas, mais les deux hommes appelés à annoncer le salut en Jésus-Christ au loin ont le soutien et les encouragements du noyau de l'Église. Au verset 3, nous lisons « Ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir ». Deuxième enseignement, le voyage doit être organisé. À partir de là, il faut organiser le voyage. Première destination, l'île de Chypre. 2 jours de bateau. Barnabas connaît le terrain. Il est originaire de Chypre. En acte 4, verset 36, on dit Barnabas, l'île originaire de Chypre. Voyager en compagnie d'une personne qui connaît le pays est tellement confortable et rassurant. Cette île dans la Méditerranée était forcément occupée par les Romains, mais peuplée de nombreux habitants d'origine juive. Voilà des contacts faciles à obtenir, puisque Paul, citoyen romain par son père, était également pharisien, connaissant sur le bout des doigts les coutumes, les us et les coutumes de la religion juive. Voilà un projet cohérent, réfléchi, audacieux et innovant. Allez, faites et enseignez, par obéissance aux ordres de Jésus, le Christ ressuscité. Troisième enseignement, se mettre au travail. Arrivé sur place, il ne s'agit pas de profiter du paysage méditerranéen et des plages chypriotes, mais de démarrer, de mettre en œuvre le projet pour lequel Paul et son équipe ont été envoyés. Prise de contact avec les autorités, le proconsul romain, gouverneur de l'île, et prise de parole dans les synagogues. Pour plus d'efficacité, Paul et Barnabas travaillent directement au contact des autorités civiles et religieuses du pays visité. Quatrième enseignement, se confronter à l'adversaire. Comme nous l'avons lu, dès que l'évangile est annoncé, on se confronte avec les adversaires. Le magicien faux prophète appelé Elimas influence le proconsul romain à la recherche de la vérité. Face à cet adversaire coriace, Dieu permet que le conseiller spirituel ennemi de toute justice et qui s'oppose à l'annonce de l'évangile devienne aveugle. Voilà un exemple où l'issue de l'affrontement est incertain, mais un événement fortuit permis par Dieu débloque la situation. Le magicien Elimas est frappé de cécité et le proconsul est convaincu de la doctrine du Seigneur. Concernant l'enseignement dans les synagogues, pour certains juifs, Jésus était bien le Messie annoncé, et ces juifs sont devenus les fondateurs de l'Église chrétienne primitive. Par conséquent, au sein des synagogues et du monde religieux juif, il fallait se positionner. Accepter que Jésus est bien le Fils de Dieu ou rejeter cette idée en se contentant de la loi de Moïse. Nous relisons les versets 44 à 47 du chapitre 13. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Dieu a même permis ultérieurement que Paul soit lapidé, mis en prison, laissé pour mort, touché par la maladie, naufragé en Méditerranée, etc. On ne peut pas réellement affirmer que Paul a été inondé de bénédictions matérielles malgré sa vie engagée. Cinquième enseignement, la gestion des ressources humaines. Le travail missionnaire est fait de rencontres et de séparations. Former une équipe, Paul, Barnabas, Jean, qu'on appelle aussi Marc, Marc et Jean, apparemment c'est le même personnage, Marc serait celui qui aurait écrit l'évangile de Marc, mais qu'on appelle également Jean dans certains passages, et Luc, le rapporteur du récit. Donc c'est une équipe qui travaille ensemble pour un temps. Mais dès ce premier voyage, Jean, qu'on appelle aussi Marc, se sépare d'eux et retourne à Jérusalem. Plus tard, nous lisons au chapitre 15, les versets 36 et jusqu'au chapitre 16, au verset 3. Donc, l'acte chapitre 15, les versets 36 jusqu'à 16, au verset 3. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères des frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En fonction de l'évolution des relations entre partenaires, même si tous sont des chrétiens convaincus et exemplaires, il est quelquefois nécessaire de réorganiser les équipes qui travaillent sur le terrain. Voilà la réalité missionnaire au premier siècle et cette aventure passionnante continue aujourd'hui. Du 10 au 25 janvier, Rachel et moi avons eu l'occasion de rencontrer des personnes engagées dans ce travail au Laos. Aujourd'hui, en 2017, malgré le déplacement par avion et la communication par téléphone et Internet, tout autour de la planète, le travail missionnaire connaît les mêmes défis qu'au premier siècle. Premièrement, c'est l'Église qui envoie. Sophie est membre de notre Église et nous la soutenons par nos prières et une participation matérielle mensuelle. Elle a été recrutée par le Comité de Mission Mennonite Français, le CMMF, pour être mise à disposition du SFE, Service Fraternel de l'Entraide, dont le président est Philippe Klopfenstein, qui nous a apporté le message il y a 3 semaines. Le SFE étant l'ONG autorisée à travailler au Laos depuis plusieurs dizaines d'années. L'originalité du SFE, c'est que différentes églises ou unions d'églises de Suisse, d'Allemagne et de France, et ainsi que des Philippines, soutiennent et envoient des candidats pour travailler dans ce champ missionnaire. 15 à 20 personnes sont actuellement au travail au Laos pour le SFE. Chacun avec sa culture religieuse, sa langue, français, anglais, allemand, son parcours personnel, marié ou célibataire, ses préjugés et sa propre logique. Même si tous sont sincèrement chrétiens engagés, il n'est pas toujours facile d'être immédiatement sur la même longueur d'onde, mais devant l'adversité et les difficultés du quotidien, la solidarité est nécessaire et vécue fraternellement. Pour les personnes qui choisissent de vivre loin de leur base familiale et de leur réseau social, il est important de sentir qu'une Église soutient leur engagement. Nous recevons régulièrement les lettres de nouvelles des uns et des autres, et l'on sent nettement que le projet n'a pas beaucoup de sens s'il n'est pas soutenu et porté par les Églises. Deuxièmement, il faut organiser le voyage. Pour aller au Laos, nous avons pris l'avion de Zurich à Bangkok, là c'est notre expérience personnelle, à Bangkok en Thaïlande, à 10 000 km de Zurich et 11 heures de vol. Ensuite, nous avons pris un avion de Bangkok à Ubon Ratchathani, toujours en Thaïlande, 1 heure de vol. Puis un bus pendant 3 heures de Ubon pour passer la frontière à pied entre la Thaïlande et le Laos, et finalement arriver à Paxé au Laos, où Sophie nous attendait, avec un véhicule du SFE, pour nous ramener chez eux là qu'à peu, en 1h30 pour parcourir 80 km. Parti le 10 janvier à 5h du matin de La Brée, avec la neige sur la route, nous sommes arrivés chez Sophie à Capeu le 12 janvier en fin d'après-midi avec 35 degrés de température. Pour info, Sophie sera en France en juin et juillet cette année comme prévu dans son engagement. Troisièmement, que fait le SFE au Laos? Au service d'une population relativement pauvre, le SFE travaille dans les domaines de la santé, du développement villageois, de l'agriculture, de l'adduction d'eau et de l'éducation, essentiellement dans le sud du pays. À Capeu, Thomas et Lydia Nuswomer, ainsi que Sophie, viennent d'obtenir l'autorisation de travailler dans 12 villages du district de Tateng, dans la province de Sekong. L'objectif du travail étant d'améliorer globalement la vie quotidienne des villageois par une diversification de la production agricole vivrière, la gestion de l'eau potable, l'organisation communautaire et l'éducation à l'hygiène et à la santé, tout cela au nom de Jésus-Christ, sans que ça puisse être annoncé officiellement. Quatrième point, quels sont les adversaires sur le terrain? Le plus gros adversaire est l'administration du Laos qui contrôle strictement le travail des ONG et par exemple le SFE. Par exemple, le SFE demande une autorisation pour mettre en œuvre un projet de 3 ans. Et cette demande part du district de Tateng, où on dépose le dossier, pour remonter à la province de Sekong, puis dans les ministères de la capitale à Vientiane, et redescend à Tateng. Et à chaque instant, n'importe quel bureaucrate a les moyens de freiner la demande. Si son stylo pour signer ne démarre pas, ou que son bras est trop fatigué pour actionner le tampon. Par conséquent, le projet de Capeu a commencé avec 6 mois de retard, malgré une bonne anticipation de la démarche. Le deuxième adversaire est l'obscurantisme lié au manque d'éducation et de connaissance des populations. Le troisième adversaire sont les pratiques liées au paganisme, mélange d'animisme, de bouddhisme et d'hindouisme, soigneusement entretenu par la pression sociale sur celui qui voudrait s'en affranchir et s'en émanciper. Le quatrième adversaire peut être le climat trop chaud, trop humide en période de moisson et la santé physique en relation avec une offre de soins insuffisante localement. Malgré tout, le peuple laotien a plutôt la réputation d'être doux et nonchalant, ce qui donne plutôt une bonne impression lorsqu'on y séjourne. Cinquième point, la gestion des ressources humaines, au SFE. Le turnover des missionnaires est une réalité. Pour les moyens termes, l'engagement est de 3 ans renouvelables. Pour les familles, lorsque les enfants doivent progresser dans leur scolarité, le retour en Europe est souvent actionné. En suivant les lettres de nouvelles des uns et des autres, vous avez appris que le directeur actuel, Nathanaël Schiltner, sera remplacé par Thomas Dugomère et par conséquent, Sophie assurera une fonction plus importante sur le projet de CAPEU avec la collaboration d'une nouvelle famille d'expatriés, c'est des Philippins, qui viendront. Voilà. En permanence, les comités de mission recherchent des ouvriers pour la moisson partout dans le monde. Une gestion plus moderne des ressources humaines permet de recruter et d'envoyer des courts termes, des moyens termes et des longs termes avec préparation, prise en charge ajustée pour faire avancer le travail pour la gloire de Dieu et l'établissement de son royaume sur la terre. Pour conclure, notre engagement chrétien n'a réellement de sens que s'il s'inscrit dans un projet collectif dirigé par l'Église qui doit rechercher la volonté de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous serons obéissants à l'exhortation de Jésus. Allez, faites et enseignez ce que je vous ai fait découvrir de cette relation voulue par Dieu avec nous, les humains, ses créatures. Amen.
Amen.